Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'empreinte de l'histoire. Nous continuons notre série d'émissions sur l'aqueduc du pont du Gard. Nous avons vu les coûts de construction, nous avons vu comment a été choisi le lieu originel, c'est-à-dire les sources de l'Eure, qui a participé à cette construction et quels ont été les outils qui ont bien sûr été utilisés pour édifier, creuser et élever l'aqueduc. Continuons encore un peu, justement, sur son tracé, sur cette pente dont je vous ai parlé précédemment. Eh bien, la pente moyenne de l'aqueduc du pont du Gard, de d'Uzès à Nîmes, est estimée à 24 cm par kilomètre, ou, si vous préférez encore plus extraordinaire, de 2,4 cm pour une distance de 100 mètres. C'est un véritable exploit qui fut réalisé par les ingénieurs hydrauliques romains. La conduite proprement dite, le specus en latin, a selon les lieux une hauteur intérieure maximale de 1,80 m, ce qui permettait à une personne de se déplacer debout à l'intérieur de la canalisation et possiblement bien sûr de la curer, de la nettoyer ou de la réparer. Le pont du Gard, encore une fois, qui est bien sûr l'ouvrage magnifique de cet aqueduc, n'a pas été choisi au hasard, c'est-à-dire l'endroit n'a pas été choisi au hasard par le ou les ingénieurs romains. Le lieu correspond en effet à un rétrécissement de la gorge et en plus, de chaque côté, il y a des roches calcaires qui permettent, en tout cas qui ont permis d'envisager à l'époque, la possibilité d'asseoir correctement les fondations du monument. Outre le pont du Gard, qui est un exploit technique, les curieux peuvent aujourd'hui encore examiner d'autres restes, d'autres traces, d'autres empreintes laissées par l'aqueduc de Nîmes à Uzès, notamment les deux tunnels, le tunnel de Pérotte et des Cantarelles, qui ont été creusés dans la molasse de part et d'autre du vallon des Escaunes à Cernac. Long d'une soixantaine de mètres qui font à peu près 2 mètres de large pour 3 mètres de haut, ces deux tunnels que les archéologues ont étudiés et auxquels ils ont estimé d'ailleurs le temps nécessaire à 6-8 mois pour son creusement, pour en fait 400 mètres de tunnel sous la garrigue de Cernac avec 14 équipes de 2 mineurs et 15 meneurs. Alors, ce temps qui a été estimé par les archéologues, et bien sûr, à prendre là aussi avec un certain recul, mais ça vous donne une idée de la rapidité, finalement, avec lequel l'aqueduc a pu être construit. Après, on trouve à l'arrivée le Castellum Divisiorum, ce que l'on pourrait très improprement comparer à nos châteaux d'eau. Il est à noter que le Castellum Divisiorum, situé rue de la Lampèze, est l'un des deux seuls castellum encore existants et visibles dans tout ce qui fut l'Empire romain. L'autre est situé à Pompéi. C'est dire la rareté et l'intérêt que l'on doit lui porter. Alors certes, un castellum n'est pas aussi impressionnant qu'un amphithéâtre ou un temple, mais il est bien, bien plus rare et Nîmes a la chance d'en posséder un. L'édifice, bien connu grâce aux fouilles, notamment de Alain Vérac, nous permet de nous renseigner sur son utilisation. D'un bassin circulaire partaient 10 tuyaux correspondant à 10 directions, et à partir de ce lieu, un réseau de tuyaux en plomb, quelques-uns d'ailleurs étaient estampillés « Col Nem Colonia Nemosus », conduisait cette eau potable vers les thermes dont 9 sont connus. Les latrines aussi, les fontaines ou bassins publics, qui étaient soit décoratives, soit tournées vers la protection contre les incendies, qui étaient nombreux à Rome, mais peut-être vraisemblablement aussi à Nîmes, mais également vers les fontaines privées. Et plus tard, cette eau se retrouvait dans le très sophistiqué, bien qu'encore mal connu, réseau d'égouts. Le Castellum est donc finalement un château de répartition. L'eau, une fois arrivée à Nîmes, il fallait prendre soin, bien sûr, de l'aqueduc. L'État romain veillait jalousement sur ces édifices. Frontin, qui est notre source principale, précise que de lourdes amendes sanctionnaient les éventuels contrevenants. Cela pouvait aller jusqu'à 100 000 sesterces pour toute déprédation ou détournement des eaux. Je vous rappelle qu'un ouvrier, à la même époque, gagne 4 sesterces par jour. L'hygiène aussi était prise en compte, Elle interdisait à quiconque de s'approcher des édifices à moins de 1,50 m de chaque côté. Et uriner près de la canalisation pouvait coûter très cher, jusqu'à, encore une fois, 100 000 sesterces. Mais en plus de ça, un édit impérial estimait indispensable qu'à Rome, qu'un peu d'eau tombe des castellum et que cette partie des eaux servait à purger les rues de la cité. On peut imaginer que le Castellum Divisiorum de la Lampèse ait eu cette même fonction. À Rome, toujours, mais parce que nous avons surtout les informations qui concernent la capitale de l'Empire, il y avait un curator aquarum qui était une sorte de magistrat de rang consulaire. Son importance était telle qu'il était de rang égal au préfet de l'Annone et des routes. Le cabinet central, à la tête du service, était composé de 15 personnes, et ce cabinet organisait le travail du petit personnel. On les appelait les aquarii, et on estime qu'ils pouvaient être plus de 600 à travailler au service des eaux de Rome. Ces aquarii pouvaient être des travailleurs libres, des esclaves pulviques. Ces petites mains étaient des ouvriers qualifiés, non qualifiés, surveillants de châteaux d'eau, strucateurs, paveurs, intendants de la paie et inspecteurs chargés de les surveiller tous. Et c'est là qu'un propriétaire, suffisamment bien sûr riche, pouvait venir chercher et demander un branchement sur les eaux de la ville pour alimenter en eau sa propre maison. Voilà, le pont du Gard, à travers l'histoire, se termine, vous voyez donc son importance, et demain, nous verrons justement son importance aujourd'hui dans le département du Gard, pour justement les Gardois, mais pas seulement pour l'humanité.
Radio Alliance Plus, 103.2 FM, à Nîmes.